Radio B. Résonance Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous. Notre émission nous a conduit ces dernières semaines dans le département de l'Ardèche pour aller à la rencontre d'initiatives artistiques et culturelles qui cherchent à donner la parole par le biais de l'art, de la musique, de l'écriture à toute une population que l'on n'entend pas beaucoup dans l'espace public. Des paroles fortes, pertinentes, des récits d'hommes et de femmes engagés dans la durée, convaincu que la culture peut constituer un espace essentiel de rencontre, de reconnaissance et d'apprentissage de l'autre, d'autonomie de pensée et d'agir pour donner corps à un commun, une société. Aujourd'hui, d'autres paroles, d'autres manières de dire, de raconter à travers deux documents radiophoniques. Notre émission Résonance attache beaucoup d'importance à faire découvrir les différents chemins qu'emprunte la création, et notamment ceux de la création radiophonique. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'échauffer vos oreilles tout au long de cette émission avec la complicité de deux fictions. La première, intitulée « De l'autre côté », a été imaginé, réalisé par une classe de 4e de la cité scolaire internationale de Gerland dans le Rhône. Ce projet est à l'initiative de la professeure de français Isabelle Perenec. L'idée était de concevoir une nouvelle fantastique de manière collective pour laquelle les élèves ont écrit en petits groupes en menant tout un travail où ils ont réfléchi à un thème et élaboré un premier scénario autour de ce thème, puis établir un scénario plus abouti et tout cela avec des phases collectives ou des moments d'écriture individuels. Et puis petit à petit, le scénario s'est défini et petit à petit, cette nouvelle fantastique a pu prendre forme et a pu être votée, si je peux dire ainsi, aussi acceptée par l'ensemble des élèves participant à l'exécution des textes et du synopsis de cette nouvelle fantastique. Et puis, à un moment donné, il y a aussi l'invitation par cette classe de 4e de la cité scolaire internationale de Gerland et leur professeur de français, Isabelle Pennec, d'inviter un musicien, un metteur en son, un sound designer, interprète aussi également, violon, électroacoustique ou électronique, arrangeur. Ce musicien multiple, c'est Sébastien Glem, qui est venu travailler autour de cette nouvelle fantastique avec cette classe de 4e. Tout un travail de recherche sur les éléments sonores du texte, sur le son, de transformation du son, d'improvisation vocale, instrumentale, avec des matériaux sonores, d'enregistrement, de lecture, de recherche du dire, du texte. Tout cela s'est déroulé pendant une vingtaine de rencontres. Et petit à petit, la fiction radiophonique a trouvé sa forme et a pu naître autour de ce double travail, collectif. Sébastien Egalem a également finalisé la mise en forme de ce document et cette pièce radiophonique a été créée lors du festival Oreilles en boucle de Chambéry en Savoie le 17 mars dernier. Une séance de travail également a été ouverte aux familles et a eu lieu en amont de la création lors des journées portes ouvertes de l'établissement le 12 mars dernier. Donc je vous propose de continuer donc à échauffer vos oreilles à travers l'écoute de cette première fiction radiophonique, cette nouvelle fantastique. Voici De l'autre côté.
De l'autre côté. Tout d'un coup, mon cœur se mit à battre très fort. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu cela. Le vent qui caressait mes cheveux, le soleil qui réchauffait ma peau et qui reflétait dans le lac mon image à moitié cachée par l'arbre qui était derrière moi. Il y avait un magnifique coucher de soleil, ce qui rendait l'atmosphère calme et douce.
Louis, tu m'écoutes ? Ton sandwich à la mozzarella et à la tomate est prêt.
Oui, je t'écoute mon amour. Merci.
Ça te plaît cette mozzarella que mes parents m'ont ramenée d'Italie ?
Je ne fis pas vraiment attention à ce que ma femme me disait. Je n'arrivais pas à me rappeler où j'avais déjà vécu tout cela. J'essayais de chercher dans mes souvenirs, particulièrement dans mon enfance. Je me rendis compte que je n'avais aucun souvenir d'avant mes 5 ans. Mais ça me semblait normal. Personne ne se rappelle de sa petite enfance. Dans l'après-midi, en faisant une promenade, ma femme me dit que nous devions nous asseoir pour qu'elle m'annonce quelque chose de très important.
Je voulais te dire que je dois partir quelques semaines en Thaïlande pour mon travail.
J'étais très choquée. C'était la première fois que nous allions être séparés si longtemps. Elle ajouta qu'elle devait rentrer préparer ses valises. Je lui répondis que j'allais rester encore un peu pour profiter de cette belle journée. En me promenant tout seul devant le lac, je sentis un vague sentiment d'incertitude qui me laissait perplexe. Je ne retrouvais toujours pas où ni quand j'avais vécu une situation semblable. Quand je rentrais à la maison, je trouvais ma femme en train de faire ses valises. À ce moment, je ressentis quelque chose de très fort. Le fait qu'elle allait partir et me laisser tout seul me troublait vraiment.
Le lendemain, après une journée de travail longue et difficile, je rentrais chez moi, épuisée. J'étais tellement fatiguée que je me couchais sur mon lit, à côté de ma femme. Je fermais les yeux et je m'assoupis rapidement. J'avais l'air d'avoir à peu près 5 ans. Un homme et une femme prétendaient être mes parents. On était dans une chambre et l'homme me dit:
aujourd'hui, nous allons à la pêche. On a pris la décision de te laisser ici tout seul. Et on veut que tu te comportes comme un grand garçon. Et surtout de ne pas ouvrir la porte en face de ta chambre. De toute façon, j'y garde précieusement la clé.
J'attendis que ces personnes partent. Puis, d'un coup, j'entendis un bruit qui venait de la chambre d'en face. Ma curiosité me poussa à essayer d'ouvrir la porte interdite. J'avançais de plus en plus près, mon cœur battait de plus en plus fort. J'étais excitée, mais terrifiée en même temps. Je tournais la poignée lentement, en essayant de ne pas faire le moindre bruit. Mais la porte était fermée. J'essayais de nombreuses fois, mais ce fut en vain. Découragée et fatiguée de frapper et de donner des coups de pied à cette fichue porte, je m'assis dans le canapé. C'est là que je vis un objet très brillant, qui reflétait les rayons de soleil qui venaient de la fenêtre. Je déplaçai les coussins du canapé et, en dessous, je trouvai une clé. Je me levai brusquement et me dirigeai vers cette fichue porte pour insérer la clé dans la serrure. Et comme par magie, la porte s'ouvrit.
Au début, je ne compris pas pourquoi l'homme ne voulait pas que j'ouvre la porte, car il n'y avait que des cannes à pêche, des seaux pour les poissons drapés, des chapeaux qu'on voit les pêcheurs porter dans les films, et d'autres objets que l'homme avait dû accumuler à la pêche. Soudain, de l'eau dégoulina des seaux qui, à l'instant, avaient paru vides. Tout d'un coup, je me retrouvais au milieu d'un lac en train de me noyer, et j'entendis une voix qui ressemblait à celle de l'homme qui prétendait être mon père.
是因为我是你的父亲，所以我才把你留在河边。
Je me réveillais angoissée par ce cauchemar inhabituel. Mon angoisse devint de l'appréhension car je me rappelais de quelques parties du rêve, même si celles étaient vagues. Une de celles-ci était un des mots dits quand je me noyais dans le lac. Le mot était
父亲.
Je le comprenais comme signifiant père, mais je ne savais pas de quelle langue il venait. Je partis à la recherche de l'origine du mot en allant travailler, car des personnes de diverses nationalités travaillaient avec moi. Arrivé à l'agence touristique, je demandais à mes collègues, qui venaient tous de différents pays, s'ils connaissaient le mot et si ce mot signifiait bien père, comme je le pensais. Finalement, après avoir demandé à un Israélien, un Turc et un Japonais, un Chinois, mon ami Wong, me fit commenter mon appréhension, car il confirma que ma traduction était la bonne.
Deux jours plus tard, je rentrais de l'agence, épuisée par mes pensées obsédantes sur cet étrange cauchemar. Ma femme était alors partie en Thaïlande pour une action humanitaire après le tsunami du 31 octobre. Je me trouvais donc seule chez moi. Je ne pris même pas le temps de manger. Enfilai mon pyjama, bus un verre de lait et me couchai. Toujours avec ce mot « Fuchin » dans la tête. Lorsque je trouvais le sommeil, je plongeais dans un nouveau rêve bien étrange.
Je ne savais pas où je me trouvais. Il me semblait que j'étais ligoté à une vieille chaise rouillée, moisie et froide. Je me trouvais dans une pièce inquiétante dont le sol de pierre était mouillé et l'endroit était en général glacial. J'étais de plus en plus apeuré. J'essayais de me débattre de la chaise, mais en vain. On avait l'impression que j'étais collé à cette dernière. Tout à coup, l'eau qui recouvrait le sol de la pièce s'assembla dans un corps effroyable qui se releva devant moi. À ce moment-là, je fus pris par la peur. Moi qui avais toujours été effrayé par l'eau, qui n'étais jamais allé à la piscine comme les autres. Je me retrouvais face à une créature faite de mon pire cauchemar, l'eau. La chose n'avait pas de visage, ni de cheveux ou d'autres caractéristiques humaines. Il y avait simplement cette forme où je distinguais deux prunelles brillantes. Je fermais rapidement les yeux et la chose parla.
N'aie pas peur.
J'ouvris lentement les yeux et en la voyant, j'aperçus un petit bob bleu clair sur sa tête. Le bob me rappelait quelque chose, mais je ne savais quoi. Sur la tête de la créature, il était trop petit et ne tenait pas complètement.
Je sais que j'ai peur. Et je vais en profiter de manière abusive. Tu te rappelles de tes 5 ans?
J'essayais de crier, mais ma bouche n'obéissait pas.
Ce jour-là, toute ta stupide famille alla à la piscine. Ton grand frère, rigolo, t'a poussé dans le bassin. Lorsque tu étais devant, hésitant et craintif.
Dans ma tête, à chaque phrase qu'il disait, ce moment se reconstituait tel un puzzle.
En parlant de puzzle, j'ai bien aimé celui qui montrait une poupée maléfique. Et que tu as fait, naïf et bête. Et ce n'est qu'à la fin que tu t'es rendu compte de l'image.
À cet instant, je compris avec angoisse que cette créature savait lire mes pensées. Je me souvins de ce rêve où je me noyais dans ma propre salle de bain, sans aide ni rien d'autre.
Pas cette fois,
dit enfin la créature, qui s'agitait de plus en plus, comme pour m'hypnotiser. Elle se leva et partit dans le noir. Me chuchota-t-elle à l'oreille. Elle se liquéfia. Une énorme vague s'abattit sur moi et m'emporta. Je ne savais pas nager et lorsque je pus enfin bouger, je battis des bras désespérés. Au moment où je croyais que ma fin était arrivée, l'eau disparut. La seule chose qui resta dans la pièce était le bob bleu, plus étrange que sur la tête du monstre. On avait l'impression que la créature terrifiante s'était réincarnée dans ce bob. Épuisé, je m'endormis.
Je me réveillai le lendemain matin, apeuré. Le bob bleu était au milieu de ma chambre. Je le ramassai et je remarquai qu'il était humide. Sur le bob se tenait une petite peluche cousue qui me regardait d'un air craintif. Il me sembla étrangement familier et je me demandais si je ne l'avais pas vu auparavant. Je pus entrevoir, dans la partie intérieure du bob, un prénom brodé en couleur de sang, très mal cousu. Je ne pus que déchiffrer Louis R. Le reste était comme effacé. Le R ressemblait vaguement à un B, qui était l'initiale de mon nom de famille, Bernard. Je n'en étais pas sûr. Tout ça faisait beaucoup de coïncidences. Je ne savais pas quoi faire. Il y avait trop de choses dans ma tête. Je devais les écrire sur un bout de papier. J'étais épuisé, et en écrivant les derniers mots, je m'endormis. Mais une chose continuait à me hanter. Cette unique phrase, hurlée par la créature, sonnait sans cesse dans ma tête. Le lendemain, je cherchais à comprendre ce que cela signifiait. Cela m'angoissait car je me rappelais de l'avoir déjà entendu prononcé par des gens qui me semblaient familiers. J'étais perplexe. Je me souvenais d'une personne qui avait dit ce mot. Mais qui était-elle? J'essayais de me rappeler la signification de cette phrase. Mais c'était impossible. Je me demandais ce qu'il m'arrivait. Étais-je fou? Devais-je voir un psychiatre? Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais malade. J'avais terriblement mal à la tête. Je ne savais qu'une seule chose sur cette phrase, c'était qu'elle était en allemand. Une des seules personnes que je connaissais parlant allemand travaillait avec moi dans l'agence de voyage. Je voulais lui rendre visite, mais ma tête me faisait trop mal. Je décidai de me reposer pour pouvoir aller la voir le lendemain. Je m'allongeai sur mon lit, je fermai les yeux et m'endormis tout de suite.
C'était un jour nuageux. J'étais dans un village qui m'était inconnu. Hélas, il avait l'air abandonné. Le silence était absolu. Le vent soufflait dans les carcasses des vieux bâtiments. Des ombres semblables à des fantômes parcouraient les murs des maisons. Un dense brouillard s'étendait devant moi et me cachait les ombres de deux formes lugubres qui me paraissaient étrangement familières. Elles me souriaient. Je courus maintes fois vers elles, mais elles disparaissaient toujours peu de temps avant mon arrivée vers elles. Au sol, habillée d'une tenue turque, se trouvait une poupée semblable à celle avec laquelle jouent les petites filles. Mais elle avait quelque chose de glauque, quelque chose qui faisait peur. Les orbites de ses yeux étaient totalement vides, et du sang coulait de ses yeux, comme des larmes qui coulent de nos yeux quand on est heureux, quand on ne peut pas retenir son rire. Je me souvins alors que cette poupée m'avait déjà été offerte, mais, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me souvenir qui avait bien pu m'offrir un truc pareil. À l'époque, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas encore la représentation de la mort. Il y avait une corde dans son dos, je la tirais et la poupée dit
« Benson Sadio Baba Anne ».
Des larmes coulèrent aussi sur mes joues, semblables aux siennes. Elles tombèrent sur la poupée et elle me regardait de ses yeux sans vie, puis me parla. Effrayée, je la lâchai et elle tomba par terre. Je partis en courant, l'idée m'effleura que cette poupée voulait en terminer avec ma vie. Cette engeance du mal me poursuivait en parlant et je décidai de me cacher dans une des vieilles maisons. Une fois cachée, j'attendis avec anxiété que la poupée m'oublie et parte. Lorsque je n'entendis plus aucun bruit, je m'approchai de la porte pour essayer de me sauver. Celle-ci s'ouvrit et la poupée me fixa avec l'obscurité de ses yeux. Elle redit la phrase qu'elle aimait tant dire. Je n'avais aucun endroit où aller, mon heure était arrivée, alors ma respiration s'arrêta.
Je m'étais réveillée. Deux mots revinrent à mon esprit.
Baba Anne.
Encore une fois, je ne savais pas ce que cela voulait dire. En sortant de chez moi, je vis une publicité proposant de voyager en Turquie. Une personne présentait la publicité. Elle était en tenue traditionnelle turque. Elle me rappela la poupée de mon rêve. Je marchais de plus en plus vite. Je ne savais plus où j'allais. Jusqu'à ce moment, je m'arrête devant un magasin de jouets. Je demandai au caissier s'il avait une poupée avec une tenue turque. L'homme se retourna, marmonna quelque chose dans sa barbe et disparut dans la pièce derrière lui. Je la regardai, mais je fus coupée par l'homme.
Alors, vous allez l'acheter ou pas ?
Elle ressemblait bien à celle que j'avais vue dans mon rêve, mais j'étais trop vieux pour acheter une poupée. En sortant du magasin, je fis les courses que je n'avais pas pu faire la veille.
En rentrant chez moi, je remarquai une boîte de puces dans mon armoire. Je me rappelais alors que lorsque j'avais emménagé, j'avais déposé cette boîte contenant mes anciennes affaires. Et parmi elles, une boîte était là, de la taille d'une main. Je la pris et j'essayai de l'ouvrir, mais il fallait une clé. En cherchant encore, je trouvai un sachet rouge contenant une dizaine de clés. Je pris la boîte et essayai d'ouvrir la serrure. La dixième clé me permit de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une petite poupée semblable à celle du magasin de jouets. Seulement, à la place des yeux, il y avait deux grands trous obscurs. Elle était plus vieille. Derrière, sur son dos, se trouvait une corde. Et lorsque je la tirais, la poupée dit tout simplement
« Benson Savio Baba Anne ».
Après avoir écouté cette phrase plusieurs fois, je me rappelais peu à peu de mon rêve. Dans la boîte, il y avait aussi une photo. Trois personnes, dont un enfant, se trouvaient dans une rue ancienne. Deux détails me troublaient. Le premier était que les deux adultes ressemblaient à ceux de mon rêve. Et le deuxième était que, dans la main de l'enfant, il y avait une poupée qui ressemblait à celle que j'avais à côté de moi. Je m'assis sur mon siège, regardant la poupée entre mes mains et la photo devant moi. Je me dis, en regardant ces deux objets, que c'était à cause d'eux que j'avais rêvé de la poupée et de ces deux adultes qui m'étaient inconnus. Mais cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu ces objets. Pourquoi ne les avais-je pas reconnus dans mon rêve? En même temps, je me disais qu'il était difficile de repenser à des objets dont je ne connaissais pas l'origine. Je ne me rappelais pas avoir joué avec cette poupée dans mon enfance. Et je ne savais pas comment elle s'était retrouvée dans ce carton. Fatiguée de cette longue journée, je m'endormis sur le siège.
Un soir de la semaine suivante, je ne voulais pas me coucher, de peur que tous ces maudits cauchemars recommencent et hantent mon sommeil. Pour tuer le temps, j'allais me reposer dans le canapé. Mes yeux se posèrent sur la place habituelle où ma femme s'asseyait. Si seulement elle était là pour vaincre ma peur et me redonner raison. Car j'avais l'impression d'être passé dans une autre dimension, comme dans un film d'épouvante, et d'être devenu fou. Je pris la télécommande et allumai la télé. Le premier programme qui me saute aux yeux était un documentaire scientifique sur les grottes et les ténèbres. Cela me rappelait ce que me disait ma femme quand j'étais tourmentée par des phénomènes inexplicable. Regarde des documentaires ou des magazines logiques pour combattre tes pensées ridicules. Je me mis à regarder attentivement. Un homme au visage bronzé qui faisait ressortir son large sourire aux dents blanches parlait d'une voix monotone à la caméra. Il commença à parler.
Une maladie vient de faire son apparition. Elle affecte surtout les mammifères qui vivent dans les grottes et les fermes qui les entourent. Hier, une centaine d'oies en ont été victimes. Le revenu des fermiers baissera d'au moins 6% cette année.
Après quelques heures, je trouvai le courage d'aller me coucher. Mais lorsque je montai dans ma chambre, je sentis l'angoisse m'envahir de nouveau. Je me couchai alors, terrifié à l'idée de dormir. Je fermai les yeux et je me sentis encore une fois saisi d'une force incroyable.
Mon corps avait rétréci, mes cheveux étaient plus doux et mes mains plus petites. J'étais assis sur des pierres froides et, lorsque ma vision fut plus nette, je trouvai dans un cercle d'enfants. Je tournai vers le plus proche. Il me semblait plus familier, plus aimable que les autres. Il fermait les yeux, souriait, excité. J'avais l'impression que ça faisait 30 ans que je ne les avais pas vus. Mais pourtant, ils n'avaient qu'entre 5 et 6 ans, comme moi. En les observant, je remarquai que les autres fermaient aussi les yeux. Et par intuition, j'ai envie de faire pareil. Mais j'avais trop peur. Que pourrait-il se passer si je fermais les yeux un instant? Un enfant courait autour du cercle. Il prononçait de manière répétitive
« Tac, 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 tac »
en frôlant la tête des enfants à chaque fois qu'il prononçait « Doc ». Je commençais à me détendre, presque au point de fermer les yeux. J'étais bercée par la voix du garçon qui répétait rythmiquement le mot, presque comme une chanson. Mais tout d'un coup, il dit « Goose » et mes yeux s'ouvrirent.
« Goose !»
L'enfant qui avait été nommé Goose se tordait dans tous les sens. L'enfant se transforma, sa bouche s'allongea et forma un bec. Ses genoux se brisaient et continuaient à se tordre dans tous les sens. Les formes étranges se formaient sous sa peau, puis on vit des plumes sortir de tout son corps. Il criait et pleurait de douleur. Une oie énorme, plus grande que les enfants, plus grande que les arbres, apparut à la place de l'enfant. Les autres enfants, eux, riaient. J'entendis un rire cruel qui m'emplit de terreur.
Désespérée, je me réfugiais dans une grotte. Je me blottis dans un coin, puis je me redressais. Et soudain, la panique m'envahit, car je ne voyais ni l'entrée, ni la sortie de la grotte, qui, à présent, ressemblait plus à un tunnel. Tout à coup, je vis un enfant, avec des yeux verts, qui me ressemblait. Je ressentis une envie incontrôlable de le suivre. Je me sentais de plus en plus angoissée. Un frisson montait le long de ma colonne vertébrale, et mes cheveux se dressèrent. Soudain, je me sentis faible. Alors, j'essayai de poser ma main sur un des murs de la grotte, mais elle passait à travers. Quand j'ouvris les yeux, il y avait un lac, au bord duquel je vis alors une famille. Quand je regardais de plus près, je vis que l'enfant qui m'accompagnait, c'était moi. Petit, enfant, mais quand même là. Il me tendit la main. Il avait les réponses, il savait quoi faire, j'en étais sûre. Je lui pris la main. Je me rapprochais du lac pour me calmer. Je me penchais en avant pour voir mon reflet dans l'eau claire, presque transparente. En me regardant dans l'eau, je vis mon reflet prendre la forme du petit garçon. Et ce reflet me dit quelque chose, d'une voix inquiète. « Come here, tac tac, come back. » Tout à coup, sa main sortit du lac et attrapa la mienne. Je m'agrippai au garçon près de moi. Mon reflet poussa un cri et disparut au fond du lac. Je me réveillai en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Puis, je me mis à pleurer silencieusement, dans le noir. Je pris ma tête entre mes mains. J'attendais que le mot me revienne. Puis là, tac. Comme je l'avais prédit, me revint le mot « tac ». Mes pensées me tourmentaient. Tac. Qu'est-ce que cela voulait dire ? En quelle langue ? Je me levai donc, tac. Toujours bouleversée par l'image du petit garçon. Je me fis un café. Il était 4h du matin. Je devais me lever à 6h. Ça ne valait pas la peine d'essayer de me rendormir.
Je sursautais une nouvelle fois dans mon lit. Je m'étais donc bien rendormie. Ces satanés rêves me hantaient et ne me laissaient pas dormir. Je vins m'asseoir à mon bureau. Mon esprit était chaotique. J'avais l'impression de connaître ces mots étranges du rêve, mais je ne parvenais pas à me souvenir de leur signification. Pourquoi ces rêves continuaient-ils à envahir mes nuits ? Je ne méritais pas cela. Pourquoi une chambre avec des cannes à pêche, une créature bleue bizarre, une poupée effrayante qui parlait et une oie géante ? Tout cela n'avait aucun sens. Je m'arrachais les cheveux en essayant de comprendre et d'y mettre un peu de logique. J'entendais plein de langues différentes où les mots roulaient sur la langue des habitants en créant des sons plus extraordinaires les uns que les autres. Tous les matins, je me réveillais en sueur, tremblant et terrifié. Je n'en pouvais plus. Cela empirait chaque nuit.
Après une éternité passée à me torturer l'esprit, j'avais une forte migraine. Mais ma détermination à trouver un sens cohérent à tout cela, pour prouver que je ne devenais pas fou, m'empêchait de faire une pause. J'ai cherché dans mes souvenirs pour nouer un lien entre tous ces événements. Mais je ne trouvais rien. Rien du tout. Ce n'était que des rêves, mais restaient coincés dans ma tête tels des lambeaux de tissu accrochés à des barbelés. Je ne comprenais rien à cela. Et je pensais devenir fou. Ce jour-là, je décidai d'aller travailler, même si j'étais épuisé. Au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Ces cauchemars me hantaient. Enfin, la fin de la journée de travail arriva, et je sortis. À mon plus grand malheur, il commençait à pleuvoir. Avec un soupir, je me dirigeais vers ma voiture. La pluie me tombait dessus comme un torrent glacial. Finalement, je rentrais chez moi. Mes pensées, parties pendant un moment, revenaient comme une vague monstrueuse.
Peu à peu, je commençais à faire le lien entre mes rêves et ma réminiscence auprès du lac. Tous ces mots qui me tourmentaient me semblaient liés par une raison inconnue qui pourrait changer ma vie. Je ne savais pas s'ils étaient reliés entre eux par une simple coïncidence ou alors si tout formait une histoire qui se rapportait à mon enfance grâce aux mots « papa » et « maman ». J'avais pu les traduire grâce à la publicité de voyage en Turquie et au caissier du magasin de jouets qui était turc et m'avait traduit ces deux mots. D'ailleurs, en pensant à mon enfance, je commençais à me demander si ce que m'avaient raconté mes parents était bien réel ou s'il me cachait une partie de mon passé. Ce groupe de mots que j'avais rassemblés grâce aux différents cauchemars était formé de canards. Papa, maman et lac. J'avais réussi à traduire la phrase en appelant mon collègue allemand Zur im See, qui signifiait « cherche dans le lac ». Tous ces mots me semblaient bien familiers. J'avais l'impression qu'ils voulaient me faire trouver quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi ni comment je réussissais à retenir ou à traduire des mots en langue étrangère que je n'avais jamais apprises. Si tous les éléments que j'avais reconstitués étaient vrais, alors peut-être trouverais-je une explication à ces vagues souvenirs près du lac et à mon amnésie concernant ma petite enfance.
Grâce à mes rêves, aux mots traduits et aux objets, des images m'étaient cependant revenues. Un lac bleu vif, transparent, des affaires de pique-nique, un petit caneton en train de se noyer. Deux visages qui m'avaient l'air familiers et me réconfortaient. Je croyais les reconnaître comme mes parents. À un autre moment, une autre image apparut. De l'eau me descendait le long du torse et une flaque s'était formée à cause de l'eau qui tombait de mon menton. Des bras sortaient de la surface de l'eau, comme un zombie ressortant de sa tombe. Bizarrement, contrairement aux autres images, l'eau du lac était devenue d'un noir sinistre, et les arbres étaient placés autour de l'enclos, comme les barrières d'une prison. Une terreur aiguë m'envahit, de nouveau, en pensant à cette reconstitution dont je ne connaissais pas l'origine.
Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être en train d'arriver. Je sentais que j'avais de la fièvre, la tête qui tournait, des gouttes de sueur trempaient mon front. Des visions me traversaient l'esprit. Réfléchis, lui, réfléchis. Je décidai de m'asseoir sur une chaise et ce fut alors que je vis une chose qui allait tout changer. En effet, une enveloppe se trouvait sur mon bureau. Dans celle-ci, il y avait une carte postale du Mexique avec une photo d'un petit garçon d'environ 8 ans. Cette image me rappelait quelque chose. Cela ressemblait au petit garçon dont j'avais rêvé si souvent. À côté de lui se tenaient deux adultes, sûrement ses parents. Ils portaient de vrais habits de voyageur, un appareil photo chacun et un guide de voyage. La femme avait même un grand chapeau avec une fleur. Ils avaient l'air très heureux. Je me dis que ces cauchemars devaient venir de cette carte postale, qu'ils avaient été placés dans ma tête pour que je voie cette carte un jour. Je lançai avec rage l'image contre le mur et me pris le visage dans les mains. Je voulais que tout s'arrête. Je ne pouvais plus supporter tout cela. Ces cauchemars n'étaient pas vivants. Je voulais seulement vivre normalement et effacer les rêves de mes pensées. Il était aussi possible que je sois un peu fou et que ces cauchemars soient réels. Je voulais que tout cela s'arrête pour toujours.
Une semaine plus tard, ma femme rentra de son voyage. J'allais la chercher à l'aéroport. Mais il manquait quelque chose. Il manquait une partie de moi et je n'avais pas réalisé que je l'avais perdue. Une passion peut-être, ou cette tendresse que je ressentais habituellement dès que je la voyais. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec les événements récents, mais j'en doutais. Le soir venu, je lui expliquais ce qui s'était passé ces dernières semaines, espérant qu'elle pourrait trouver une solution à cette histoire de fou. Je lui racontais tout, mes malheurs, mes rêves, mes angoisses et mes terreurs. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse pendant un moment.
Tu ne m'avais pas raconté que tu faisais des cauchemars quand tu étais petit ?
C'est vrai, je n'étais qu'un enfant. Mais cette fois, c'est différent. Les cauchemars sont beaucoup plus réalistes.
Mais un cauchemar reste un cauchemar, qu'on soit enfant ou adulte.
Avait-elle raison ?
Après un moment de silence, je crus qu'elle s'était endormie. Je me levai donc et je recommençai à réfléchir à tout ça, aux mots, aux cauchemars, aux objets. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Je tournais en rond, mais je n'arrivais pas à trouver une solution. Je m'assis pour réfléchir plus calmement à tout cela. Au bout de quelques heures, mes nerfs s'apaisaient enfin. J'étais de toute façon trop épuisé pour continuer à penser. Ma femme avait sans doute raison. Tout ceci n'était que le jouet de mon imagination, de ma fatigue et des langues que j'entendais continuellement à l'agence de voyage. Je décidai donc de retourner me coucher. Mais avant, j'allai chercher un verre d'eau. En passant dans le couloir, je jetai un coup d'œil dans le miroir. Il me sembla voir une silhouette, à peine humaine. Je regardai plus attentivement. Je distinguai une autre silhouette, aussi floue que la précédente.
Étrangement, elle me semblait familière. Une femme mince et petite, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un vert éclatant. Et un homme, grand, qui se tenait auprès d'elle et qui me regardait d'un air réconfortant. La femme me ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était les personnes de la carte postale. J'eus le souffle, coupé. C'était mes parents, mes vrais parents. Non ceux que j'avais cru être mes parents depuis tout ce temps. M'avaient-ils menti ? Qu'est-ce que cela voulait dire? Plus j'y pensais, plus je cherchais encore une fois une explication. Plus le sourire de ma mère s'agrandissait. J'avais trop peur de me retourner, de voir pour la première fois mes parents en chair et en os. Je regardais longtemps notre reflet, me préparant à me retourner. Finalement, ma curiosité et mon impatience vainquirent ma peur et la voix dans ma tête qui m'empêchait de me retourner, de les embrasser et de leur poser toutes les questions qui me venaient. Je me retournais. J'étais seule.
Résonance sur Radio B, émission spéciale fiction et création radiophonique, nouvelles fantastiques. Au cours de la saison 2014-2015, Cécilia Devarine, chargée de développement culturel à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, a proposé aux patients et aux professionnels de cet hôpital de s'aventurer sur les chemins de la création dans le cadre d'un atelier de création sonore conduit par une artiste de la prise de son et du montage, Véronique Macari. Pendant plusieurs mois, quelques volontaires, en cours d'hospitalisation pour certains, ou adhérents du GEM, groupe d'entraide mutuelle, ont pris part à cet atelier de création sonore dans lequel ils ont appris à mener une interview radiophonique, à poser leur voix pour des lectures, à produire des bruitages, à utiliser un enregistreur numérique. À travers tout ce travail d'expérimentation, de ces multiples paroles, improvisations, maniement de la matière, Véronique Macari a imaginé, conçu 4 fragments radiophoniques. Toujours dans l'idée de poursuivre à échauffer vos oreilles, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le 3e fragment radiophonique réalisé par l'atelier de création sonore de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon.
À l'opposé du pèlerin, le randonneur est une espèce récente. La figure de la marche 2001.
Prochain arrêt, hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
Suivre le pas, des marches.
Une girafe.
Le promeneur s'assoit volontiers au gré de ses caprices, s'arrête pour observer ceci ou cela, lève le nez, se détourne de sa route, le cas échéant. Il n'est ni trop attentif à ce qui se passe autour de lui, ni très concentré sur ce qu'il fait. Tout, pour lui, peut être objet de sollicitation, de distraction et son mode d'être.
Arrêtez-vous un moment, puis poursuivez votre chemin vers l'enclos à biches. Regardez-les un moment, puis dirigez-vous vers l'entrée champagneuse. Marchez tranquillement, asseyez-vous dans la cour d'honneur.
Les sons d'ici.
Le bonjour des soignants.
Les trousseaux de clés.
Couloir.
Les oiseaux.
La cage aux folles.
Les pas.
Le bruit des jets d'eau qui tournent. Tip, 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 tip.
Le chant des oiseaux.
Les portes qui s'ouvrent.
Le bruit des biches.
Les sons d'Olivier Coupil dans la chapelle.
Les tracteurs qui passent.
Les camions qui passent.
Ploup, 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 ploup.
Le bruit du silence.
La salle des sports.
L'environnement.
Le ping-pong.
Les tondeuses.
Les tracteurs.
Les voix.
La lumière.
Le bruit des verres à la cafette.
Moi-même.
Profession ?
Libre. C'est difficile.
D'être libre. Là,
j'étais dehors, maintenant je suis dedans.
Pourquoi vous êtes là, monsieur ?
Je suis venu voir les choses et les gens.
Quels gens ?
Vous, lui, elle.
Et pourquoi ne vous a-t-on pas vu pendant si longtemps ?
J'étais parti en voyage.
Où ça ?
Si loin.
Est-ce que j'attends des godots ?
Et vous ?
Depuis longtemps. C'est où ce loin ?
Juste un peu après.
Après loin, c'est où ?
Un peu plus.
Serait-ce un voyage immobile ?
Parfois.
Sur place ?
Souvent.
Familial ou professionnel ?
Les deux.
Seul ou accompagné ?
Les deux.
Vous dites rien, vous !
Parlez !
Qui, nous ?
Vous, les professeurs ?
Nous, lui ?
Vous-même !
Ok, attention !
Les espaces encombrés par les couleurs criardes et les formes zébrées. Travaillés par 1000 accidents. 1000 par les crevasses et les éboulis. Sont autant de pièges qui se dressent sur le parcours de ces deux randonneurs. À les suivre, nous prenons les mêmes risques.
La musique.
Ben c'est un disque de deux chanteurs brésiliens, Chico Buarque et Caetano Veloso, deux des plus grands chanteurs brésiliens, qui chantent ensemble une chanson qui m'intéresse beaucoup parce que ça reprend un texte de Fernando Pessoa, un poète portugais. Et la phrase qui revient tout le temps dans la chanson, c'est « Naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire ». Alors c'est une phrase que je ne comprends pas du tout, mais que je trouve très belle. Voilà.
Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia.
ο σάγι, ο σάρκο. Barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Suivre les pas. Figure de marche.
Suivre le pas.
Dérive.
Démarche.
Durée 4 minutes. Nombre de personnes.
Suivre le pas est une mise en relation d'un inventaire effectué in situ sur le site de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
Début de côté de là.
Et de différents textes sur la marche.
Poubelle. À gauche, puis.
Ce dialogue s'effectue à partir de cartes.
L'entrée.
Illustrant d'un côté un trajet.
Votre regard.
Et présentant de l'autre côté.
Sans jamais fixer.
Une citation.
Revenez.
Relative à la figure de la marche.
Au point de départ, à l'avant.
J'entends les moteurs surtout. Il y a des moteurs.
La prison. La porte.
La voiture.
L'isolement.
Partir en voyage.
Liberté.
Enfermement.
Fort Boyard.
La prison.
Fermé.
Sécurité.
Ouvrir.
Une ouverture.
Fermé.
Sécurité.
Ouvrir.
Une ouverture.
Fermé.
Sécurité.
Une ouverture.
Ouvrir.
Olivier Goupil.
L'affaire du jour.
C'est fin et subtil.
Des sons venus d'ailleurs.
C'est magnifique.
Meilleur d'Olivier Revol.
Venez.
Olivier Goupil, c'est la bonne compile.
On est transporté.
Olivier Goupil, la belle combine.
Bonjour Stéphane, Jamel Lequin, bonjour. Pourquoi en fait vous êtes là aujourd'hui
Moi je suis venu ici pour installer un dispositif sonore dans la chapelle et qui fonctionne toute la journée. C'est une installation électronique qui fonctionne un peu à la manière d'un système naturel. Ça se confond un peu avec les sons de l'environnement.
Vous êtes travaillé seul ou en équipe à plusieurs
Je ne les ai pas comptés exactement, mais disons qu'il doit y avoir entre 60-70 petits appareils qui sont des oscillateurs, c'est-à-dire des générateurs de sons électroniques qui fonctionnent à l'énergie solaire.
Qui êtes-vous
Je n'ai pas encore épuisé toutes les possibilités. Ça dépend du mouvement de la lumière.
L'expérience des patients, des professionnels de la santé en psychiatrie, qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant ?
Alors le matin, le soir, et quand il y a des nuages qui passent.
C'est à quel rythme à peu près de travail ?
Dans la chapelle, il n'y a pas d'autres animaux, il n'y a pas d'oiseaux ni d'insectes, mais il y a des sons qui viennent de l'extérieur, qui sont filtrés par les parois, mais qui se mélangent au son de l'installation. Et je trouve que c'est intéressant. Je ne veux pas faire des sons qui feraient obstacle aux sons qui sont déjà là.
Non, vous n'arrivez pas à faire une conclusion définitive sur ce que vous avez vécu.
Mais ce n'est pas non plus très spectaculaire. Ce sont des changements parfois très subtils. Il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment s'immerger dans l'écoute.
Olivier Goupil.
À l'opposé du pèlerin, le randonneur est une espèce récente. Pendant des siècles, hommes et femmes n'ont pas marché volontiers par monts et par veaux, et ils mettront du temps à se rendre en pleine nature sans y être forcés. la figure de la marche 2001.
Moi aussi, j'aimerais bien vous poser une question à propos de l'installation que j'ai faite dans la chapelle, des sons qu'on entend, si ça vous fait penser à quelque chose.
Je ne vous ai pas entendu chanter, donc je ne sais pas encore ce que vous valez, si j'aime, si j'aime pas, si vous allez réussir ou pas. J'espère pour vous, en tout cas, que ce que vous chantez, ben, il faudrait vous lever du bon pied, quoi. Comment ? Je voulais lui poser une, quelle heure, lui poser une question, c'était à quelle heure il aimait le plus chanter ?
Le matin, je chante pour réveiller mon corps. Ce ne sont pas des chansons, ce sont simplement des sons comme ça, des voyelles, par exemple A, E, I, O, U. Des choses comme ça, ça fait partie de comme des exercices de yoga.
Oui, conformément, oui, c'est exactement, c'est bien ça. C'est je suis heureux d'avoir connu Olivier et je pense que le travail qu'il fait, ben, ça peut l'aider au niveau de son. De son corps, effectivement, à pouvoir se sentir mieux dans sa peau.
Oui, c'est, effectivement, ça m'aide beaucoup à me sentir mieux. C'est comme si le son me produisait une sorte de massage.
Le micro, est-ce que ça fait stresser ? Non, pas vraiment. Non. Bon, peut-être un petit peu quand même, ça impressionne un peu par moment, mais non, ça va, on arrive à gérer la situation quand même.
Comme un poisson dans l'eau, se promener, faire la sieste, imaginer, traverser, regarder, se renseigner, s'ouvrir, arriver, jouer à la pétanque, imaginer.
Entrer puis marcher très rapidement, un grand sac à la main, vers l'entrée champagneuse. Au niveau de l'entrée, vous croisez un homme qui vous salue, ne lui répondez pas. Il vous dira, les gens vont au travail et ne savent pas dire bonjour. Continuez votre chemin sans vous retourner.
C'est une maison, mais totalement transparente.
Et ben, c'est toujours la maison des usagers, mais là maintenant c'est au milieu d'un espace très vide avec une sorte de paysage derrière. Il y a une tente pour faire la fête, un peu comme dans un mariage. Il y a une girafe. Il y a une girafe et un enfant.
Il y a un petit toit qui n'est pas dans le milieu, ça c'est pas mal. Et la girafe a l'air très heureuse. Encore plus là-haut parce qu'elle peut monter, redescendre. Et puis il y a de l'énergie éolienne, c'est très moderne. Et puis il y a des gens qui sont contents. Il y en a qui montent, assis, qui marchent, qui parlent. C'est plein de gens, hein, c'est bien, voilà.
Puis il y a des gens aussi, il y a des gens près de la tente pour le mariage. Et puis il y a une voiture, une jolie voiture, une voiture neuve, une petite chèvre aussi. Et des lunettes de soleil au soleil, comme si le soleil devait se mettre des lunettes pour y voir plus clair.
Donc c'est une image et le titre c'est « Si on enlève l'hôpital, il faudrait grandir la maison des usagers ». Donc c'est déjà intéressant je trouve. Après on voit une image un peu psychédélique, la MDU. Enfin, la MDU est au centre en fait. On a un soleil, des lunettes ou une lune, on ne sait pas trop.
Peut-être la lune qui aurait un nez.
Oui, ça donne l'espoir, quoi.
Et un papillon.
Comme si la MDU, c'est peut-être un tremplin vers autre chose.
Puis il y a marqué en dessous, ce n'est pas un service de soins.
Vers un meilleur pour les gens.
C'est une petite maison pour les usagers de l'hôpital, que ça soit vous, nous, les familles.
Très coloré, enfin, très positif.
J'aime beaucoup cette image. Il y a un effet de perspective, je trouve, qui est assez sympathique. D'un autre côté, on peut voir un escalier assez original, un escalier moderne, on va dire, que je trouve joli aussi. Alors derrière, c'est une approximation, c'est flou, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est sympathique, il y a des couleurs, il y a de très belles couleurs, du bleu, du rouge, du noir, des couleurs qui pour moi pètent, quoi, on va dire.
Il y a une grande étendue,
L'horizon, je crois, découpe en deux l'image presque. On a une girafe.
Suivre le pas. Démarche. Suivre le pas est mise en relation d'un inventaire effectué in situ sur le site de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et de différents textes sur la marche.
Le texte.
J'ai besoin de maîtriser mon corps et mon esprit car souvent mes cauchemars sont des scènes de violence difficiles à supporter. Je n'arrive pas à dormir. Il me semble que dormir, c'est échapper au contrôle de mon psychisme, car je ne peux pas maîtriser mes rêves et mes cauchemars. J'ai l'impression de perdre mon temps, et j'ai peur de m'endormir pour toujours. Plus je regarde l'immensité céleste, plus je ne vois qu'une poussière de ce que l'on veut me faire croire comme étant la vie. Et je hais sans haïr, je respecte sans respecter, je sais sans savoir la vérité.
La fin.
Coproduction, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, les GEM, GEM Arlequin, GEM Gémotion, Radio Pluriel.
Sally.
Virginie. Aïcha.
Sébastien.
Zaya. Stéphane.
Marie-Françoise.
Oui.
Cécilia.
Séverine.
Monique.
Jean-Dominique.
Raphaël. Les étudiants et professeurs de l'école d'architecture. Une réalisation de Véronique Macari.
Résonance sur Radio B, émission spéciale fiction et création radiophonique, Nouvelle Fantastique. Vous venez donc d'entendre le troisième fragment radiophonique réalisé par l'atelier de création sonore de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Et après donc cette émission riche en découvertes de création radiophonique, nous arrivons au terme de cette présente émission. J'étais accompagné aujourd'hui à la technique et à la mise en onde par Simon Deborne. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.